Annie. Première partie, chapitre 2. Il croyait avoir du travail pour trois quarts d'heure. En moins d'une demi-heure, il eut achevé son dessin et quitta les bureaux à 7h30. Comme, avec les jarrets qu'il devait à son sang basque, il pouvait faire en 20 minutes la course du boulevard Bonne Nouvelle au sommet de Montmartre, il ne serait pas trop en retard. Par le boulevard Poissonnière, le faubourg Montmartre, il fila vite, ne ralentit point le pas pour monter la rue des Martyrs et escalada en jeune homme les escaliers qui grimpent le long des pentes raides de la butte. C'est tout au haut que se trouve la rue de l'Abreuvoir, qui, entre des murs soutenant le sol mouvant de jardins plantés d'arbustes, descend par un tracé sinueux sur le versant de Saint-Denis. Le quartier est assez désert, assez sauvage, pour qu'on se croie à 100 lieues de Paris. Cependant, la grande ville est là, au-dessous, à quelques pas, tout autour, au loin, et quand on ne l'aperçoit pas par des échappées de vue, couvre tout à coup entre les maisons une rue faisant office de télescope, on entend son mugissement humain, sourd et profond, comme celui de la mer, et, dans ses fumées, de quelque côté que les apporte le vent, on sent passer son souffle et son odeur. Dans un de ces jardins s'élèvent un long corps de bâtiments divisé en une 20aine de logements, puis tout autour, sur ses pentes accidentées, quelques maisonnettes d'une simplicité d'architecture qui n'a de comparable que celle qu'on voit dans les boîtes de jouets de bois pour les enfants. Un cube allongé, percé de 3 fenêtres au rez-de-chaussée, au premier étage, un toit en tuiles, et c'est tout. Des bosquets de lilas les séparent les unes des autres, en laissant entre elles quelques plates-bandes, et un chemin recouvert de berceaux de vignes les dessert, suivant les mouvements du terrain. Chacune a son jardinet. Toutes jouissent d'un merveilleux panorama, leur seul agrément. Celui qui détermine des gens aux jarrets solides et aux poumons vigoureux à gravir chaque jour cette colline, sur laquelle ils sont plus isolés de Paris que s'ils habitaient Rouen ou Orléans. Une de ces maisonnettes était celle de la famille Barinque, mais les charmes de la vue n'étaient pour rien dans le choix que leur avaient imposé les duretés de la vie. Ruinés, expropriés, ils se trouvaient sans ressources. Lorsqu'un ami que leur misère n'avait pas éloigné d'eux avait offert la gérance de cette propriété à Barinque, avec le logement dans l'une de ces maisonnettes pour tout traitement. Et telle était leur détresse qu'ils avaient accepté. Au moins, c'était un toit sur la tête. Et avec quelques meubles sauvés du naufrage, ils s'étaient installés là, en attendant, pour quelques semaines, quelques mois. Semaines et mois s'étaient changés en années, et depuis plus de 15 ans, ils habitaient la rue de l'Abreuvoir, sans savoir maintenant s'ils la quitteraient jamais. Et cependant, à mesure que le temps s'écoulait, les inconvénients de cet isolement se faisaient sentir chaque jour plus durement, sinon pour le père, qu'une longue course n'effrayait pas, au moins pour la fille. Quand elle n'était qu'une enfant, peu importait qu'ils fussent isolés de Paris. Elle avait les jardins pour courir et pour jouer, travailler à la terre, bêcher, ratisser, faire de l'exercice en plein air, avec un horizon sans bornes devant elle qui lui ouvrait les yeux et l'esprit. Tandis que sa mère la surveillait en rêvant un avenir de juste compensation que la fortune ne pouvait pas ne pas leur accorder. Le soir, son père, revenu du bureau, la faisait travailler, et comme il savait tout, les lettres, les sciences, le dessin, la musique, elle n'avait pas besoin d'autre maître. Son éducation se poursuivait sans qu'elle connût les tristesses et les dégoûts de la pension ou du couvent. Mais il était arrivé un moment où les leçons paternelles ne suffisaient plus. Il fallait se préparer à gagner sa vie et que ce qui avait été jusque-là agrément devint métier. Elle était entrée dans l'atelier Julien et chaque jour, par quelque temps qu'il fît, pluie, neige, verglas, elle avait dû descendre des hauteurs de Montmartre par les chemins glissants ou boueux jusqu'au passage des panoramas. Longue était la course, plus dure encore. Son père la conduisait d'une main, la couvrant de son parapluie ou la soutenant dans les escaliers, de l'autre portant le petit panier dans lequel était enveloppé le déjeuner qu'elle mangerait à l'atelier. Deux œufs durs, ou bien une tranche de viande froide, un morceau de fromage. Mais le soir, retenue bien souvent à son bureau, il ne pouvait pas toujours la ramener, alors elle revenait seule. Quel souci et quelle inquiétude pour un père et une mère élevés avec des idées bourgeoises de savoir leur fille toute seule dans les rues de Paris. Et une jolie fille encore, qui tirait les regards des passants autant par la séduction de ses 20 ans que par l'originalité de la tenue qu'elle avait adoptée, sans que ni l'un ni l'autre eussent l'énergie de la lui interdire. Une jupe un peu courte, retenue par une ceinture bleue qui, le nœud fait, retombait le long de ses plis. Une veste courte, ouvrant sur un gilet, et pour coiffure, un béret, ce béret que Bellemanière lui avait reproché. Sans doute, ce costume qui s'écartait des banalités de la mode était bien original pour la rue, alors surtout que celle qui le portait ne pouvait passer nulle part inaperçue. Mais comment le lui défendre? La mère était fière de l'avoir ainsi habillée et trouvait qu'aucune fille n'était comparable à la sienne. Le père, ému. N'était-ce pas en effet, à quelques modifications près pour le féminiser, le costume du pays natal? Quand il la regardait à quelques pas devant lui, svelte et dégagée, marchait avec la souplesse et la légèreté qui sont un trait de la race, son cœur s'emplissait de joie, et il ne pouvait pas la gronder parce qu'elle était fidèle à son origine. Il avait voulu qu'elle s'appelât Annie, qui était, depuis des siècles, le nom des filles aînées dans sa famille maternelle. Et à Paris, Annie était une sorte de panache, tout comme le béret bleu. Ce n'était pas seulement cette course du matin et du soir qui rendait la rue de l'Abreuvoir difficile à habiter, c'était aussi l'isolement dans lequel elle plaçait la mère et la fille pour tout ce qui était relations et invitations. Comment rentrer le soir sur ces hauteurs au pied desquelles s'arrêtent les omnibus? Comment demander aux gens de vous y rendre les visites qu'on leur a faites? Pendant les premières années qui avaient suivi leur ruine, Madame Barinck ne pensait ni aux relations, ni aux invitations. Écrasée par cette ruine, elle restait enfermée dans sa maisonnette, désespérée et farouche, sans sortir, sans vouloir voir personne, trouvant même une sorte de consolation dans son isolement. Pourquoi se montrer misérable quand on ne devait pas l'être toujours? Mais, avec le temps, ses dispositions avaient changé. L'ennui avait pesé sur elle moins lourd, la honte s'était allégée, l'espérance en des jours meilleurs était revenue. D'ailleurs, Annie grandissait, et il fallait penser à elle, à son avenir, c'est-à-dire à son mariage. Si le père acceptait que sa fille dût travailler pour vivre, et par un métier, sinon par le talent, s'assurer l'indépendance et la dignité de la vie, il n'en était pas de même chez la mère. Pour elle, c'était le mari qui devait travailler, non la femme, et lui seul qui devait gagner la vie de la famille. Il fallait donc un mari pour sa fille. Comment en trouver un rue de l'Abreuvoir, où ils étaient aussi perdus qu'ils l'eussent été dans une île déserte au milieu de l'océan? Certainement, Annie était assez jolie, assez charmante, assez intelligente pour faire sensation partout où elle se montrerait. Mais encore fallait-il qu'on eût des occasions de la montrer. Madame Barinck les avait cherchées, et, comme après 15 ans d'interruption, il était impossible de reprendre ses relations d'autrefois, dans le monde dont elle avait fait partie, elle s'était contentée de celles que le hasard, et surtout une volonté constamment appliquée à la poursuite de son but, pouvait lui procurer. Après ce long engourdissement, elle avait du jour au lendemain secoué son apathie et dès lors n'avait plus eu qu'un souci, s'ouvrir des maisons, quelles qu'elles fussent, où sa fille pourrait se produire, et amener chez elle des gens parmi lesquels il y aurait chance de mettre la main sur un mari pour Annie. Comme elle ne demandait à ceux chez qui elle allait ni fortune, ni position, rien qu'un salon dans lequel on dansa, elle avait assez facilement réussi dans la première partie de sa tâche. Mais la seconde, celle qui consistait à faire escalader les hauteurs de Montmartre à des gens qui n'avaient pas de voiture, et qui pour la plupart même n'usaient des fiacres qu'avec une certaine réserve, avait été plus dure. Cependant, elle était arrivée à ses fins en se contentant de 2 soirées par an, fixées à une époque où l'on avait chance de ne pas rester en détresse sur les pentes de Montmartre, c'est-à-dire en avril et en mai, quand les nuits sont plus clémentes, les rues praticables, et alors que le jardin fleuri de la maisonnette donnait à celle-ci un agrément qui rachetait sa pauvreté. L'année précédente, quelques personnes de l'espèce de celles qui ne connaissent pas d'obstacles, quand au bout elles doivent trouver une distraction, avaient risqué l'escalade. Aussi, espérait-elle bien que cette année, pour sa première soirée, ses invités seraient plus nombreux encore et que parmi eux se rencontrerait un mari pour Annie.